It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Bonjour, bienvenue sur le podcast Sur la Ligne, le podcast champ gauche du Cannes Football Club qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes, des enjeux et celui du terrain. Le titre du podcast aujourd'hui est « Mon club est unique ». Alors, est-ce que, en effet, beaucoup de gens pensent que leur club est unique, beaucoup de supporters le revendiquent, mais est-ce que c'est vrai et surtout, qu'est-ce qui fait qu'un club est unique en partant de l'exemple du Racing Club de Strasbourg ? Pour cela, j'ai invité deux journalistes. Sébastien Keller, tu es journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace, hein, c'est toi qui suis le Racing.
Exactement.
Et Cyril Olives Berthet, tu es au passeport de l'équipe depuis 2016 et tu as entre autres suivi Metz, le Nîmes Olympique et Montpellier. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Salut.
Hello. Moi, je vous propose de commencer. Alors, j'ai préparé un petit truc introductif pour nous mettre dans le grand bain de cette vaste question. Mon club est unique, tout le monde le dit, mais moi, c'est vrai. C'est cette phrase, elle est prononcée par Grégory Walter, qui a fait 10 fois le tour du monde pour suivre le Racing, dans un podcast que j'ai fait précédemment. Et justement, c'est cette phrase qui m'a donné l'idée du podcast. Alors évidemment, tous les clubs sont uniques par certains traits. L'AS Saint-Étienne a sauvé la ville de Saint-Té d'une mort promise, comme me l'a dit Timothée Mémont dans un autre podcast précédent. L'OM a un public à nul autre pareil. Le FC Barcelone appartient à ses sociaux, c'est ancré dans ses terrils. Alors aujourd'hui, on va prendre l'exemple du Racing, justement, et le Racing, eh bien, sa singularité, elle a toujours existé, mais aujourd'hui, plus que jamais, elle existe, puisqu'il a fallu qu'il meure pour vivre plus fort, et que la liquidation de 2011 a sonné un retour dans le cœur des Alsaciens, et une forme de respect, voire d'admiration, à l'extérieur de l'Alsace. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette dernière phrase?
Bah oui, quand même, oui. C'est-à-dire que voir un club disparaître comme ça a été le cas pour le Racing, il y a plus de 10 ans maintenant, hein, c'était en 2011. Peu de gens dans le milieu du foot hexagonal pouvaient alors à ce moment-là imaginer que le club strasbourgeois renaîtrait de ses cendres. Et pourtant, 10 ans plus tard, il est en Ligue 1, il est revenu. Oui, effectivement, on a tendance à dire un peu plus fort, parce que débarrassé de ses scories, débarrassé de tout ce qui alourdissait l'ambiance autour du club. Mais oui, effectivement, c'est un exemple quand même assez frappant.
Parce que ce qui est dingue aussi, c'est vrai que cette passion, on parle souvent, tu as eu raison de le souligner, de la passion lensoise, de la passion stéphanoise ou même marseillaise. Ils sont des clubs extrêmement populaires qui drainent un public dingue. Moi, en tant qu'observateur extérieur, j'ai toujours halluciné sur les affluences que faisait Strasbourg quand ils étaient au plus bas, quand ils étaient en national ou quoi. On en parlait entre nous en disant « Oh, là, mais c'est dingue ce qui se passe autour de Strasbourg », toujours alors que le club a été quasiment mort. Et ils sont en train de revenir, ils sont toujours là, et puis ils sont toujours là à drainer surtout cette passion dévorante.
C'est vrai que à ce titre-là, la première saison post-liquidation judiciaire, donc la saison 2011-2012, est assez parlante également à ce sujet parce que à l'époque on savait pas trop si le club allait pouvoir jouer encore à la Méno, un stade quand même de 27 000 places pour un club en CFA2. Et puis très vite on s'est rendu compte que la passion populaire ne s'était pas éteinte, qui restait fidèle. Il y a eu une journée notamment où les supporters étaient venus avant le premier match à domicile, nettoyer ce stade, puis il n'y avait plus de personnel au niveau du club.
On l'a nettoyé à plusieurs reprises, ça aussi, ça fait partie finalement de la mythologie et de la belle histoire, c'est que ils ont commencé par nettoyer une tribune, et puis après, on a su qu'il y aurait plus de supporters que juste cette tribune, donc ils en ont nettoyé une deuxième, et que finalement, voilà, ils ont un peu fait, ils ont dû faire dans l'après-midi, ajuster le nettoyage pour pouvoir accueillir tout le monde dans des conditions normales ou acceptables.
Tout à fait. Il y a eu des matchs à plus de 10 000 spectateurs pour la cinquième division. C'est quand même assez extraordinaire. Je suis pas sûr qu'il y ait des précédents en France, en tout cas, d'un tel engouement populaire pour un club qui joue aussi bas.
Et puis c'était des affluences qu'on voyait pas toujours quand le club était au-dessus, était dans les divisions professionnelles. C'est aussi ça qui a beaucoup surpris. Et puis, c'était aussi des affluences qui n'étaient pas forcément les mêmes, puisque c'était des plus jeunes. Et c'est vrai que moi, dans la Renaissance, une des choses qui, moi, m'a beaucoup séduit, c'est que finalement, il y a une jeunesse strasbourgeoise qui est arrivée et qui, finalement, s'est construite avec le club. Ils étaient très jeunes quand le club était en CFA2, puis ils ont grandi avec le club. Et ils ont amené aussi leurs copains, leurs copains de lycée, et après leurs copains de fac. Ça, c'est aussi quelque chose qui me surprend toujours beaucoup. C'est cette capacité qu'a le Racing, d'aller chercher des gens qui n'étaient pas forcément créés pour venir, et qui ont rencontré des copains à la fac, et se sont dit pourquoi pas aller au Racing, et qui sont restés.
Ouais, c'est ça, c'est des gens qui n'avaient pas vraiment de notion de l'histoire du club, qui ne savaient pas qui ne savaient rien du titre de 79, qui ne savaient rien de l'épopée européenne des années 95, qui ne savaient rien de son histoire, mais qui effectivement sont intéressés un petit peu à ce qui se passait autour de ce club, cette histoire un peu de David contre Goliath, puisqu'il repartait vraiment tout en bas, et ça a passionné pas mal de monde. Il y a eu une nouvelle génération qui s'est installée dans les tribunes sans connaître vraiment l'histoire plus que centenaire du club.
Mais justement, dans le magazine Zut, il y a Philippe Wolff, qui est le président de la Fédération des supporters, considérait que cette affluence et cette ambiance était un peu une espèce de tarte à la crème. Et il disait finalement, est-ce que c'est l'ambiance de la Méno qui est incroyable, ou si c'est l'ambiance des autres stades qui est trop faible et qui est pas à la mesure de ce qu'elle devrait être normalement? Je te donne la parole, Cyril.
C'est une question un peu rhétorique.
Parce qu'il y a une forme de mythologie quand même de ce public strasbourgeois.
Franchement, je couvrais avant Amiens aussi, Montpellier, Nîmes, là Metz et Strasbourg cette saison. Par le passé, j'ai fait pas mal de clubs. Je pense que j'ai fait tous les stades en France. Et quand on me demande souvent, c'est quoi la meilleure ambiance, etc. Je trouve qu'il y a une mythologie autour de Lens que personnellement je comprends pas trop, parce que à chaque fois que j'y suis allé, j'ai pas halluciné sur l'ambiance, au contraire de Marseille ou de Saint-Étienne il y a quelques années, où c'était vraiment très chaud et où c'est deux stades que je mets en tête au niveau de l'ambiance. Et pour moi, la Méno, je le dis de manière totalement non partisane, parce que je ne suis pas accroché au club depuis longtemps ou quoi, mais la Méno, ça a toujours été une ambiance que j'ai trouvée géniale, et qui n'est donc pas, selon moi, fausse ou quoi. Il y a plein de potes et il y a plein de gens à qui je dis, mais allez voir un match à la Méno, allez vous prendre une tarte flambée avant, enfin tout, même ce qui se passe autour du stade, les heures avant, quand les gens arrivent, c'est cette ambiance un peu l'allemande, j'adore, et je trouve qu'elle est pas du tout usurpée. Et même je vous dis, je trouve qu'on dit toujours Lens, c'est génial, ou d'autres stades où j'ai été souvent déçu, alors que à l'inverse on m'a rarement dit Strasbourg c'est extraordinaire, hein, les gens qui sont à l'extérieur, alors que je trouve que au contraire c'est très intéressant et c'est génial, quoi.
Ouais, alors Cyril, juste pour préciser, c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette ambiance, c'est quand même quelque chose de récent à Strasbourg. Mmh. Dans le passé, il y a pas toujours eu un engouement, même un stade plein. Il y a souvent eu des stades vides aussi, au gré des infortunes du club. Il y a eu des stades, des matchs à 1000, 1500, 2000 spectateurs. À l'époque de la D2, il y avait parfois des ambiances délétères. Il y avait des bagarres. C'était pas toujours le côté sympa tel qu'on a aujourd'hui depuis la reconstruction. Mais c'est vrai que c'est un truc à mettre au crédit de la direction actuelle du club, hein, c'est d'avoir su redonner envie aux gens de venir au stade et de le transformer en lieu de vie, effectivement en s'inspirant de la Bundesliga, de ce qui se fait de l'autre côté du Rhin, avec des animations, des choses qui se déroulent avant le match, des gens qui viennent en famille, je vois pas beaucoup de stades en France où on vient en famille, où la mère, le père, les enfants, le grand-père, tout le monde débarque le dimanche après-midi à 15h en tribune.
Il y a des groupes de filles qui vont dans la tribune des filles, ça aussi c'est quelque chose qui n'existait pas et qui n'existe pas dans tous les stades. Il y a cette volonté aussi, et aussi une volonté de discussion avec les supporters, avec Arnaud Zimanski qui est le référent supporter, qui fait un excellent boulot, qui a été d'ailleurs très très bien choisi. Et finalement, quand on regarde le Racing, c'est aussi beaucoup ce qu'il vend. Il dit, nous on est un peu resté amateur par certains traits. Ça, ce qui existait dans le monde amateur, le dialogue avec les supporters, cette espèce de volonté, finalement, de travailler ensemble et de travailler ensemble et de concorde, ça, c'est resté.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que les exemples ailleurs en Ligue 1 sont pas très nombreux pour souvent des stades qui où il ne se passe pas grand chose ni avant ni après le match, parfois pendant, c'est guère enthousiasmant. Donc à Strasbourg on est quand même plutôt bien loti à ce niveau-là.
Ouais, c'est vrai. Et puis c'est vrai que finalement, là aussi, on indique aussi que cette ambiance à l'allemande, ça fonctionne. Et on sait jamais vraiment si c'est quelque chose qui c'est une création artificielle, parce que évidemment, c'est au bénéfice du club aussi que des gens arrivent à l'avance, qu'ils consomment plutôt que d'arriver au dernier moment après avoir mangé. Donc c'est vrai que ça c'est une quelque chose qui fait aussi peut-être un peu parfois, les gens expliquent que c'est un peu de la mythologie. Autre chose qui est restée, et là je te donne la parole Cyril, c'est ces fameux entraînements ouverts au public avec l'obligation, et là les joueurs l'ont bien comprise, parce que c'est un message qui est, je crois, redit, de rester aussi pour le public à la fin de l'entraînement, de faire des photos, de faire des autographes. Il y a quand même beaucoup de clubs où l'accès à l'entraînement, il est pas ouvert au public, ou trop rarement, non?
Ah oui, ça c'est vrai que c'est une spécificité intéressante, et puis en plus la topographie du stade avec le centre d'entraînement qui est à côté, il faut passer par cette petite passerelle où il y a même la piste cyclable où les gens passent à moitié avec leur vélo alors qu'il y a l'entraînement, ils peuvent s'arrêter, c'est vraiment marrant et ça bon enfant. Et effectivement cette ouverture du RCSA vers ses supporters est précieuse et ça permet de garder des bonnes relations. En tout cas, c'est vrai que dans les autres clubs, ça se fait très peu, et c'est à l'inverse, on compte les séances qui sont ouvertes au public, il y en a en général une par semaine.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
Like, are you a fist pumper, a woo-hoo-er, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Alors c'est vrai que bon, une des spécificités strasbourgeoises, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que le club est en ville, le stade est en ville, dans le quartier de la Méno, qui n'est pas central, mais qui n'est quand même pas loin de l'hypercentre. Donc le fait que ce soit ouvert sur la ville, qu'il y ait des habitants autour, qu'on soit pas à l'extérieur, qu'on soit pas comme à Décines, au Parc Ouel, à Bordeaux même, on est loin de tout, là on est au cœur de la ville, il y a des gens qui passent, il y a des gens qui ne s'intéressent pas au foot, qui s'arrête 5 minutes pour regarder ce qui se passe sur la
des jeunes gens gambadés, voilà, exactement.
voilà. Après, il y a un carré de fidèles, ils sont là tous les jours. Voilà, il y a une vingtaine, une trentaine de personnes qui manqueraient pour rien au monde des entraînements qui pleuvent, qui ventent ou qui neigent. Bon, alors, juste pour mettre un petit bémol quand même par rapport à cette vision un peu idyllique, le fait que les entraînements soit ouvert, ça veut pas forcément dire qu'on voit grand chose, parce que les terrains sont ainsi fait que les gens sont quand même assez éloignés de ce qui s'y passe, et voir des gens gambadés, des joueurs gambadés à 100 mètres, c'est un peu plus difficile. Mais bon, le fait est que c'est une volonté du club, c'est une volonté du président Marc Keller de laisser ses entraînements ouverts. D'ailleurs, tout au début de la saison, Cyril, je sais pas si tu t'en souviens, mais Julien Stéphan avait un peu importé les méthodes rennaises, donc il avait fait l'un ou l'autre entraînement à huis clos sur la pelouse d'honneur, donc dans le stade de la Méno. Ça avait un petit peu râlé, et puis très vite il a abandonné cette idée. Il y a aucun entraînement qui est à huis clos depuis le mois d'août ou le mois de septembre.
Et toi, est-ce qu'il y a
Je pense que Julien aussi est quelqu'un de très intelligent et a vite cerné aussi ce qu'attendaient les gens, comment étaient les supporters, comment ils voulaient que leur équipe leur ressemble, ou à quoi devait ressembler cette équipe pour emmener tout le monde derrière elle. Et donc il a réussi à le transmettre aux joueurs assez rapidement. Lui a vite faire par petites touches les réglages qu'il voulait faire, et par cet exemple dont tu parles, Sébastien, c'est vrai que c'est intéressant et c'est symptomatique de ce qu'il essaye de faire, que ce soit sur le terrain ou hors du terrain, pour créer une vraie émulation, cette émulation qui existe à l'intérieur de son groupe pro et aussi autour du club et des Strasbourgeois.
Justement, Sébastien, cette ouverture, bon, parfois elle est vraiment très étonnante. Moi, je suis allé voir l'entraînement la veille du match de barrage pour la Coupe de l'UEFA contre Francfort, et donc j'ai été accompagné, enfin autour de moi il y avait les supporters du Racing, mais il y avait aussi beaucoup d'Allemands qui étaient assez estomaqués que finalement la veille d'un match aussi important, mais il y a un entraînement qui soit comme ça ouvert au public. Alors évidemment, Thierry Loret n'a pas donner tous les secrets, la tactique du lendemain. Il y a eu un entraînement un peu plus tard qui est sur le terrain d'honneur, voilà, qui était où là il y avait un peu plus, à mon avis, de tactique. Mais est-ce que toi, ça change ton travail, cette ouverture du club, ou finalement tu penses que si c'était pas ouvert à tout le monde, ça serait quand même ouvert pour les journalistes qui suivent le Racing au quotidien?
Non, mais enfin, ça change pas fondamentalement mon travail. Après, pour en discuter avec pas mal de confrères qui suivent des clubs qui sont fermés, hein, qui sont fermés toute l'année. Je pense à Monaco, à Lille. On parle même pas du PSG, voilà, il y a des clubs qui n'ouvrent strictement rien, qui ne donnent pas accès aux joueurs en dehors des points presse imposés la veille du match et le jour du match. À Strasbourg, on est quand même sur un schéma différent, avec un accès aux joueurs dans la limite du raisonnable. va pas demander un joueur tous les jours, mais bon, voilà, nos demandes généralement sont en tout cas examinées avec bienveillance. Elles sont pas toujours, il y a pas toujours de feu vert en fonction de l'actu des joueurs, en fonction de leur état de forme, en fonction de quelques critères. Voilà, on accepte également le fait que que le club, que l'entraîneur ou que le staff décide de mettre tel ou tel joueur un peu en sourdine. Voilà, mais on a quand même un accès assez privilégié, ce qui est appréciable. Enfin, Cyril, toi qui as bossé sur d'autres clubs, quand il y a des clubs qui ferment tout, qui déroulent tout, c'est un peu compliqué de travailler.
Oui, et surtout le fait que ce soit ouvert au public, c'est donc ouvert aux journalistes, comme tu posais la question. À l'inverse, quand c'est fermé au public, normalement c'est aussi fermé aux journalistes. Et donc du coup, pour les clubs qui sont totalement fermés, non, les journalistes n'ont pas plus accès que une personne lambda supporter, etc. Et donc c'est quand même beaucoup plus compliqué de travailler sur ces clubs-là, d'avoir des infos et même de développer une relation de confiance, que ce soit avec les joueurs, avec le staff, parce que c'est ça aussi, il faut, comme disait Sébastien, c'est avoir l'intelligence aussi de reconnaître que c'est rare et puis pas en abuser, et ainsi développer une bonne relation pour que le club fasse parler de lui dans les médias, que les médias puissent parler du club sans que il y ait de problèmes ou de supputations ou de petits règlements de compte, parce que il y a des clubs où ça finit un peu comme ça. On l'a vu récemment, je crois que c'est à Angers où ils ont à Brest où ils ont complètement interdit l'accès à une des radios, etc. Donc quand on en arrive là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi.
Ouais. Et simplement, oui, alors il faut pas non plus donner de l'idée d'une vue romanesque autour du Racing, où le Racing est un club de Ligue 1, donc il sait aussi s'entourer de personnel pour encadrer sa communication. C'est le cas, donc les plus anciens des confrères se souviennent d'une époque bénie où ça se terminait dans les vestiaires à discuter après l'entraînement avec les joueurs, mais bon, forcément tout ça ça appartient au passé, et je crois qu'il n'y a plus aucun club pro dans le monde, enfin dans le monde j'en sais rien, mais en tout cas en France et en Europe qui autorise ces pratiques-là. Donc à Strasbourg, effectivement, on a peut-être un peu plus accès aux joueurs que dans les autres clubs, mais ça reste quand même très encadré.
Oui, bah encore une fois, quand les joueurs ils parlent aux journalistes, ils parlent évidemment aux journalistes, mais ils parlent surtout aux lecteurs des 10 journaux. Et c'est là aussi, moi, quand on empêche un journaliste d'aller à une conférence de presse ou d'accéder à un entraînement, c'est on punit pas le journaliste, on punit les supporters, les fans, les amoureux du club. Donc ça, c'est dit. Alors évidemment, tout ça, c'est en partie grâce à la direction du club. La direction du club, et là aussi, c'est une originalité, c'est un ancien joueur international, un ancien joueur du club, aussi quelqu'un qui est du CRU, un Alsacien, c'est Marc Keller. Et finalement, le fait que ce soit un ancien joueur, et puis quelqu'un qui connaisse on ne peut plus finement le football, est-ce que vous croyez que ça influence aussi le club, et que ça, quel bénéfice que vous y voyez, vous qui avez connu d'autres présidents ailleurs? Alors, Sébastien, toi tu en as connu beaucoup, et des originaux.
Il faut quand même si on remonte à la jeunesse de l'histoire, Keller joueur évidemment, mais Marc Keller aussi fait ses premières armes de dirigeant en tant que directeur général à l'époque de Philippe Ginestet, le président. Ouais. Bon, ça c'était pas super bien fini. En tout cas, c'était pas bien fini avec Philippe Ginestet, puisque Marc Keller avait quitté le club à ce moment-là pour aller à Monaco. Effectivement, le retour de Marc Keller, c'est un peu
Puis le Barcala, j'ai oublié de le dire, il a sauvé le club, c'est-à-dire que le club était vraiment dans l'ornière, et il a créer un pool d'investisseurs, on en reparlera un peu plus tard, et avec ce pool d'investisseurs, d'amis, de proches du club, il a relancé le Racing.
Réamorcé la pompe, oui, exactement. Réamorcé la pompe parce que l'année, alors c'est son frère François Keller qui était finalement le dernier.
Dernier des Mohicans, exactement.
Dernier des Mohicans qui avait repris l'équipe en CFA 2 quand il y avait vraiment plus de direction et plus d'argent
et plus joueurs.
Perspective et plus de joueurs et plus rien. Plus paternel et plus rien. Donc voilà, lui il avait pendant un an. Relancer en tout cas veiller à ce que le club ne disparaisse pas, et son frère donc est revenu en tant que dirigeant, en tant que président l'an d'après, donc en CFA. Et là c'était vrai, effectivement l'année où il a réussi à mobiliser non seulement les collectivités qui ont eu un rôle important dans la relance, puisque bon le stade par exemple n'appartient pas au club, il appartient à l'Eurométropole, enfin à l'agglomération strasbourgeoise. Donc voilà, la ville a mis du sien, la région, c'est encore à l'époque la région Alsace, avant de devenir la région Grand Est, a mis du sien, le département, ensuite, oui, des privés, des investisseurs. Il a ratissé large, hein. J'ai toujours cet exemple du pilote Sébastien Loeb.
Aussi mon exemple.
Ouais. Qui ne s'intéresse pas du tout au foot,
n'aime
pas la méno, qui n'aime pas, il ne sait pas ce que c'est le foot, et ben il a quand même mis la main à la pâte, et c'était un des premiers.
Un porte-monnaie, exactement. Oui, ouais. Et puis il a ramené aussi son image et ses contacts auprès de la région, exactement. Et finalement, il a eu cette intelligence aussi d'aller chercher des éléments extérieurs au microcosme footballistique. C'est vrai.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ce qui a permis de repartir. Effectivement, sans cet élan, on va dire aussi large.
On y serait toujours.
Pas sûr que le club puisse repartir, quoi. Hein.
Et donc, finalement, que Keller soit un ancien joueur, à ton avis, Cyril, en quoi ça influe sur le club et sur la façon dont il est organisé, géré?
C'est vrai que je vais pas vous cacher que Keller président, c'est très loin de Rani Assaf numéro 3 de Free à Nîmes, c'est très loin de Laurent Nicolin à Montpellier, de Bernard Joannin à Amiens. Donc ça, oui, c'est vrai que ça a rien à voir.
Et de tous les nouveaux qui finalement sont bombardés là par des fonds de pension ou par des
voilà. Même au niveau générationnel déjà. Rani Assaf est plutôt jeune, et puis Laurent aussi. Mais il y a aussi toute une palanquée de présidents qui sont quand même beaucoup plus âgés que lui. Donc voilà, il a aussi une autre vision plus moderne de sa fonction. Et puis il a l'intelligence de cette double casquette d'être quelqu'un qui était un ancien joueur et qui a donc la légitimité du terrain qu'il porte encore, ancien joueur en plus de bon niveau.
International.
Et puis en même temps quelqu'un qui a su faire des études, qui a su monter des projets, des business plans, et c'est vraiment quelqu'un, on dirait, pour faire le parallèle avec un joueur, c'est quelqu'un de très complet. D'ailleurs un joueur très complet dans mes souvenirs.
Ouais, tout à fait. Puis il a aussi su s'entourer des bonnes personnes au poste clé au niveau directionnel. Je pense notamment à Alain Play qui est son adjoint, son bras droit, on va dire, qui a la charge spécifique de développer le projet de rénovation du stade. Donc lui il se consacre presque exclusivement à ça, ce qui permet à Marc Keller d'avoir un peu plus les coups des franches, les idées claires pour mener d'autres dossiers. Donc il a des personnes autour de lui qui sont des personnes de l'ombre, parce qu'elles ne s'expriment pas souvent, on les voit pas dans les médias, mais qui bossent, qui remplissent leur boulot, derrière Marc Keller, qui est finalement la seule figure qui dépasse, quoi.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Exact. Et justement, elle dépasse, mais elle reste quand même plutôt dans l'ombre, parce que c'est vrai que la communication, elle passe plutôt par l'entraîneur. Parfois même, on avait un peu l'impression qu'il était, c'était pas forcément facile aussi pour Loret, voilà, finalement, d'avoir cette espèce de double casquette. Et le choix de Stéphane, moi, je trouve qu'il est aussi, finalement, assez logique, parce que c'est deux hommes qui, je trouve, se ressemblent, et se ressemblent pas seulement physiquement, ils se ressemblent aussi, ben, finalement, dans la façon de concevoir le football, dans la communication. T'as peut-être un regard là-dessus, Cyril?
En tout cas, ce choix de Julien Stéphan est... Enfin, nous, on est un peu tous tombés des nues. Personne... Enfin, c'est étonnant comme Strasbourg, avec Loret, avait une certaine image qui a tout de suite été cassée par... par ce recrutement hyper ambitieux, où enfin c'est vrai qu'on voyait quand même Stéphane, on en parlait à Nice, on en parlait à Lyon, il pouvait peut-être briguer des postes comme ça, et le voir à Strasbourg, d'ailleurs il s'est souvent énervé à ce sujet quand on lui disait est-ce que c'est pas une régression, etc. Et bah pour lui, enfin vraiment je pense que dans sa tête il avait jugé en homme très intelligent et fin analyste qu'il est, que Strasbourg, peut-être au niveau de ses structures, de ses fondations, au niveau de sa gestion financière, n'avait rien à envier à Rennes, par exemple, à Nice avec Ineos, c'est loin, mais par exemple, il a peut-être très vite jugé, avec raison, que Lyon, c'était peut-être un Yves Guep, que finalement, avec toujours Olaskela, avec qui il s'entendrait peut-être pas très bien, et il a été, enfin, je pense que Strasbourg, là, c'est un win-win total. Strasbourg a été extrêmement intelligent de le convaincre et d'aller le chercher, et lui, il a été très intelligent d'accepter le poste et d'avoir une vision à peut-être plus moyen terme que bon nombre d'entre nous.
Ouais, pour compléter ce que dit Cyril, j'ai l'impression que, enfin, même ce qui ressortait des premiers échanges que l'on a pu avoir avec lui, c'est la stabilité qui l'a convaincu, la stabilité du club, la stabilité niveau des dirigeants, de l'équipe. Voilà, il a senti que, alors certes, on n'est pas sur des budgets comme Rennes ou comme Nice, beaucoup moins, mais voilà, il y a d'autres arguments qui, pour lui, à mon avis, étaient presque plus importants, d'autant plus qu'il sortait d'une expérience un peu, enfin, qui s'était fini en queue de poisson côté de Rennes quelques mois plus tôt, pour repartir du bon pied. Je pense que Strasbourg, c'était exactement ce qu'il lui fallait. Je crois que Marc Keller n'a pas eu trop à insister pour le convaincre. Il s'est rendu compte, Julien, par lui-même, qu'il y avait des choses intéressantes à faire à Strasbourg. Et puis, ouais, effectivement, c'est finalement lui la recrue phare de l'été, parce que l'effectif n'a pas beaucoup bougé. Bon, il y a Kevin Gamero, forcément, qui est au pays, donc ça a bien sûr été la recrue phare de l'été, mais ouais, sinon c'est le meilleur coup de l'intersaison, la vraie bonne pioche, c'est Julien Stéphan.
Justement, si Nidanatus revenait des glaces aujourd'hui et qu'il s'était endormi, je sais pas, il y a 12 ans, en connaissant le Racing, il serait quand même très très surpris de vous entendre parler de stabilité, puisque finalement le Racing, c'était l'instabilité chronique, c'était l'OM de l'Est, les entraîneurs, eh bien, ils changeaient très régulièrement, les présidents aussi, les propriétaires du club aussi, et là on est dans un club où finalement, eh bien, il y a une assise capitalistique qui a, on le dit régulièrement, ses limites, mais bah, qui est là, il y a un président qui est là, on reparlera peut-être du futur, on verra ça, mais le président, bah, il est toujours là, il avait dit que peut-être il partirait, enfin sans doute même, en Ligue 2, parce qu'après, bah, ça deviendra un peu trop gros pour lui. Bah, finalement, bah, il a grandi lui aussi, où ses ambitions, elles se sont affinées avec le temps. Comment est-ce que on peut comprendre finalement que cette stabilité, elle est plus installée, et à quel point, on a aussi beaucoup parlé du microcosme local, à quel point est-ce que vous pensez que finalement que les investisseurs, eh ben, soient du cru, ça a pu être important dans la réussite générale du club?
Alors pour moi, les explications sont assez simples. Dans un passé lointain, non, mais voilà, on va dire au siècle précédent, en tout cas, le club, enfin, les gens se servaient plus du club qui ne venait pour le servir. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu pas mal d'ambitions politiques qui se sont affirmées autour du club, des gens qui ont essayé de renforcer leur aura, de faire une carrière. En utilisant le club, il y a eu forcément des dissensions parce que on n'était pas d'accord entre eux, parce qu'ils n'étaient pas du même bord politique, parce qu'il y a eu pas mal de soucis. Ensuite, on a eu aussi des présidents qui venaient un petit peu. Voilà, qui ont tenté. De, bah, je pense à la période McCormack qui avec Patrick Croisy, Claude Leroy, tout ça, ça a créé beaucoup, ça fait beaucoup de tort, quoi, finalement, au club, parce que on n'était plus sur une un club, les gens avaient l'impression d'avoir été dépossédés de leur club historique, et c'est pour ça que à cette période-là, il y avait plus grand monde dans le stade. Voilà, quoi, on était on est sur des périodes très troubles, quoi. Et tout ça, maintenant, c'est fini, effectivement, parce que la stabilité, elle est récente, effectivement, mais elle est bien ancrée. Je sais pas, Cyril, ce que t'en penses.
Ouais, je pense qu'il y a aussi l'importance de quand un club, enfin, c'est un peu comme quelqu'un qui passe près de la mort, qui est dans le coma, parce qu'il a fait une connerie, parce qu'il a conduit en état d'ébriété et qu'il s'est foutu dans le ravin et tout. Ben, enfin, il y a des gens qui arrivent aussi à se dire il faut que je change quelque chose dans ma vie et tout. Il y a des clubs comme Strasbourg qui sont descendus très bas mais qui sont pas remontés, quoi. Et quand on est passé comme ça près de la mort, quand il a fallu tout remettre à zéro et etc. Y a des fois des décisions à prendre, un chemin à prendre, et puis Strasbourg a pris le bon, quoi. Tout est reparti de zéro, ils ont tout remis à plat, et puis pierre après pierre, ils ont reconstruit le truc. C'est vrai que ça, comme tu parlais d'Hibernatus, là, ça n'a rien à voir avec le club qui existait il y a 12-15 ans.
Exactement, mais c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Finalement, ce club-là, sa chance, c'est d'être reparti justement de zéro et d'avoir pu grandir petit à petit. Et on oublie trop souvent que ça a été très très difficile. Il y a le site Planète Racing qui a fait un rappel des fins de saison du Racing depuis 15 ans. Et puis, depuis 15 ans, toutes les fins de saison, le Racing a joué quelque chose. Alors que ce soit essayer d'éviter une descente, ou que ce soit, voilà, chercher, voilà, à se maintenir, ou alors à justement à monter,
à reconstruire, ouais.
Voilà, à reconstruire, voilà, à remonter. Et on oublie aussi très souvent ça, c'est que il y a eu beaucoup, le Racing a eu beaucoup de chance. Les buts de Liénard à la 97e minute, c'est évidemment beaucoup de chance. Luznac, qui finalement, pour des raisons qui sont plus que contestables, est interdit de monter, évidemment, ça a profité au Racing Club de Strasbourg. Et là, moi, je voudrais justement reposer une question, c'est qu'il y a beaucoup de clubs, beaucoup de supporters plutôt, qui disent, moi, j'aimerais bien que mon club soit relégué, et on fera la même chose que Strasbourg, sans savoir que finalement, bah, ça a été extrêmement difficile de remonter, et que justement, c'est parce qu'on est parti de très loin, aussi, qu'on a pu, ben, grandir petit à petit, et sans avoir, ben, oui, sans... Et là, moi, je pense par exemple aux Bordelais, les Toulousains, ou alors, il y en a évidemment bien d'autres, les Stéphanois, on entend plus en plus ça. On voudrait retomber bas, comme ça on peut remonter. Comment est-ce que tu vois ça, Cyril?
Ouais,
il y a une sorte de chimère, il y a ça, c'est une histoire.
Nîmes, ça va aller pas. Bah,
Nîmes,
etc. Et il y a beaucoup de supporters de Nîmes qui pensent ça et qui disent, bah, de toute façon, ce serait mieux que Assaf vende, ce serait mieux qu'on fasse faillite pour nettoyer tout ça, etc. Après, c'est, je pense, quand même extrêmement difficile. C'est pas parce qu'on va redescendre et parce qu'on va repartir au plus bas de l'échelle qu'on va prendre les bonnes décisions, que le club va être entre les bonnes mains. Et donc, c'est quand même un peu qui tout double quand même.
Bah, en fait, oui, effectivement, là, pour abonder dans ton sens, Cyril, j'aurais plus tendance à dire que Strasbourg est une exception, parce que les clubs qui se sont cassés la gueule et qui sont remontés, il n'y en a finalement pas tant que ça, il y en a même qui ont totalement disparu de la scène professionnelle. Hein,
oui, Toulon,
Sedan, enfin, c'est des clubs qui à un moment étaient en Ligue 1, voilà, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ça fait des années qui rament pour essayer de revenir. Donc ouais, il faut quand même le fait de dire oui, c'est très bien de faire table rase et de reprendre à zéro. Enfin, c'est pas ce qui garantit un succès, quoi. Donc il faut quand même qu'il y ait quelques planètes qui soient bien alignées pour que ça puisse se faire. Mais je me souviens de quand le club avait commencé à péricliter, et peut-être même l'année où il avait déposé le bilan, il y a eu pour occuper un peu la Méno, il y a eu un match amical, il y a les filles de l'OL qui étaient venues jouer un match avec Colas qui était présent, qui en avait parlé justement à Marc Keller, qui disait bon, bah voilà, le club a disparu, il faudra 10 ans, vous avez un soutien populaire, il faudra 10 ans pour revenir si tout va bien. Ouais, 10 ans, c'est ça, quoi. C'est le temps qu'il faut, hein, pour repartir, pour essayer effectivement de y aller des turpitudes. Tu parlais de Luznac, de l'affaire Luznac, qui avait été interdit de monter, ce qui avait permis au Racing de sauver sa place. Le coup franc de Liénard. Enfin voilà.
Chaque année depuis 15 ans, exactement.
Ouais,
c'est une statistique incroyable.
Voilà, et souvent ça tient un peu de choses, quoi. Voilà, il faut un petit peu de chance. Alors, on pourra dire que la chance se provoque, que à Strasbourg le fait que l'environnement soit devenu sain, que les tribunes soient bien remplies, que les supporters poussent derrière leur équipe. D'ailleurs, les joueurs sont les premiers à le dire, hein, que le fait d'avoir des stades pleins l'an dernier, jouer à huis clos à cause du Covid, ça avait un peu plombé l'équipe de manière générale. Donc ouais, le fait qu'il y ait du public ça, et qu'il y ait cet engouement, ça, c'est quand même un atout super précieux. Et là, c'est pareil, il y a peu de clubs qui peuvent s'en prévaloir.
Justement, il y a un lien entre cette époque amateur ou semi-amateur et le Racing d'aujourd'hui, c'est Dimitri Liénard. Alors, et c'est aussi finalement souvent le joueur dont à l'extérieur, on parle le plus, bon, maintenant un peu moins, mais les années précédentes, il y a beaucoup de gens qui nous enviaient Dimitri Liénard et son art du coup franc, cette espèce de grinta. Et puis bon, il est aussi, pour vous, c'est un cadeau des dieux, Dimitri Liénard. Il est très très bon client.
C'est le gardien du temple. C'est le gardien du temple. C'est l'homme qui défend les valeurs ancestrales du football, qui est là pour taper sur les mains des jeunes coéquipiers qui viendraient à prendre la grosse tête. Et... Donc ouais, il est là vraiment pour. C'est une exception lui aussi dans le milieu du foot professionnel.
C'est une exception. T'as raison. Ça fait plusieurs fois. Enfin, je sais plus si c'est lui qui me l'a dit parce que je l'avais eu. Lors du stage de cet été où je disais presque je devrais pas être joueur pro, enfin être joueur professionnel, moi Dimitri Liénard dans l'équipe de mon cœur et tout, enfin mais où là, à la limite lui il y croit toujours pas quoi.
Ouais, mais donc, c'est...
Et quand on lui dit Dimitri je suis en fin de contrat, faudrait que tu prolonges ou pas et qu'il hésite. Et puis qu'il prolonge en baissant son salaire, qu'il est parmi les meneurs aussi quand il a fallu faire des réductions de salaire suite à la crise du Covid. Oui, c'est le gardien du temple, c'est l'âme.
Il avait perdu un peu la foi l'an dernier parce que parce que les résultats ne suivaient pas, parce que l'ambiance n'était pas au top dans les vestiaires, il avait perdu le goût l'image qu'il avait de son club quoi.
Ouais, hein, ça l'a beaucoup remis en question, ça lui a fait bizarre. Hein. Il a eu le recul pour se dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est juste passager. Il a beaucoup réfléchi cet été.
Ouais, tout à fait. On craignait un peu tous les suiveurs du club qui s'en aillent quoi, hein, de guerre lasse, mais finalement bon voilà, c'est il est unique, il est il a réussi à se remobiliser et à redevenir capitaine d'ailleurs de
ouais,
de...
et puis à faire du bon boulot maintenant, un poste qui est pas le sien, il montre aussi que c'est pas un joueur qui est juste genre là pour mettre des brins et pour gueuler sur les autres et tout. C'est un joueur qui a quand même l'intelligence de se replacer correctement à gauche, de s'effacer parfois pour le brassard envers Bicou, d'accepter le turnover, évidemment, mais non, c'est vrai que c'est un sacré personnage.
C'est vrai que son parcours est quand même assez atypique, parce que quand on pense que bah, il avait découvert la méno avec le FC Mulhouse, c'était quand même c'était en 2012-2013, il était venu jouer un match de championnat de CFA contre Strasbourg, il jouait au FCM, le stade était quasiment en plein pour un match de CFA, mais bon, c'est le derby alsacien, donc en même temps ça attirait du monde. Et ouais, voilà, de le voir, donc il y a 10 ans de ça en CFA.
C'était déjà une consécration pour lui. Il pensait vraiment que ça serait le pic de sa carrière. Il rêvait quoi. Il n'était pas vraiment sûr d'être éveillé. C'est vrai. C'est ça qui est magnifique.
Tout à fait. Et puis bon, voilà, de le voir 10 ans plus tard comme un pilier de l'équipe, un cadre en Ligue 1, malgré les ans, malgré voilà, il est toujours là. Il est et plus que jamais quoi, voilà, donc c'est vrai que c'est le dernier rescapé aussi de cette aventure. Il y avait longtemps encore Jérémy Grimm qui lui est parti il y a 2 ans maintenant, voilà quoi, mais c'était un peu les derniers les gardiens du temple, et c'est important pour un club comme Strasbourg d'avoir un relais comme ça pour l'entraîneur, pour le président, d'avoir quelqu'un comme ça dans le vestiaire quoi.
Justement, bah, parlons un peu du futur. Alors, comment est-ce que vous imaginez le futur du Racing Club de Strasbourg? Est-ce que vous croyez qu'il va continuer à pouvoir développer la Ligue des Champions?
Non, c'est une plaisanterie, on en plaisantait, mais c'est vrai que depuis dimanche et la défaite à Bordeaux, Strasbourg est un peu revenu sur terre, même si tout le monde dit que, enfin tout le monde dans l'équipe te dit que les pieds étaient bien ancrés au sol. Mais bon, voilà, c'est vrai que qu'on s'était tous mis un peu à rêver, à voir ce début d'année quand même assez avec 3 victoires de rang, avec une 4e place au classement. Donc voilà, c'est vrai que Julien l'a répété plusieurs fois, le Racing n'est pas programmé pour jouer aussi haut, mais s'il y est, c'est qu'il le mérite. Donc voilà, l'idée, cette saison, Cyril, de ce qu'on a vu, Strasbourg a certainement déjà sa place place dans le top 10, ça me paraît, c'était un peu l'objectif caché de début de saison, même si, voilà, on parle jamais trop d'objectifs chiffrés, mais voilà, le top 10, c'est tout à fait envisageable, mais un petit peu plus haut, autour de ces fameuses places, qui ouvrent une porte européenne, j'imagine que ça peut devenir l'ambition de la fin de saison si ça veut rigoler.
Oui, bah, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus.
Ah oui, mais on est la capitale de l'Alsace, il faut qu'on y retourne, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, évidemment, enfin, ça me paraît logique, on devrait être d'ailleurs deux fils.
Non, mais c'est vrai que imaginer une Ligue Europa, un match de Ligue Europa à la Méno, c'est tout à fait possible. Je pense pas que ce soit finalement hors de leur corde dans cette saison qui est encore un peu Covid, avec des gros clubs qui sont complètement en perdition. Ouais, il y a la place. On parle de top 10 et évidemment, vu ce qu'ils ont montré pour l'instant, le top 10 est évidemment leur place. Mais pourquoi pas un top 6 ? Il faut voir lors des prochaines semaines. Là, il dit on se place. Et sur les prochaines semaines, ils ont un calendrier qui est plutôt accessible. Ils ont récupéré les joueurs. Donc, faut voir comment. En tout cas, la mayonnaise a pris et on voit que il n'y a pas d'autres équipes qui sont en train de performer et de revenir sur eux. On a vu Rennes est tombé là à Clermont. Et puis Lens aussi commence un peu à rentrer dans le rang. Donc ça peut être après c'était très serré quoi.
De l'Europe en Europe, c'est lui.
Ouais, et puis on parlait tout à l'heure de Bundesliga, c'est vrai qu'il y a un peu un effet miroir juste de l'autre côté du Rhin, quasiment en face, il y a le SC Fribourg qui ressemble assez à Strasbourg dans sa taille, dans ses infrastructures, dans ses... exactement. Et qui, ils sont 4e, 5e de Bundesliga. Ils sont pas vraiment attendus à pareille fête, mais ils sont là. Voilà. Donc on est un petit peu sur ce schéma d'équipes, de clubs qui travaillent sérieusement, qui peut s'appuyer sur une bonne base populaire, avec de bel engouement dans le stade. Voilà. Ça peut faire des miracles ou des merveilles en tout cas. Quoi.
Moi, je vais arriver avec des nuages un peu plus gris. Je suis vraiment désolé, mais l'année dernière, j'ai fait un podcast avec Philippe Tournon, qui a été pendant longtemps le chef de presse des Bleus. Et justement, je lui ai demandé alors Marc Keller à la fédération, et il m'a dit que pour lui, c'était logique. Marc Keller allait prendre la succession de Noël Le Graët. Alors, c'est des rumeurs qu'on entend aussi beaucoup à Strasbourg. S'il prend la succession de Noël Le Graët, il doit évidemment quitter le Racing. Alors, est-ce que vous pensez aussi que ce scénario est possible, plausible? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir aussi une vente pour cette raison ou une autre? Quel est votre sentiment, Cyril, l'homme de Paris?
C'est vrai que Keller, tout le monde l'attend depuis des années. C'est le protégé de Noël Le Graët, l'élu. The chosen one.
C'est ça, exactement, c'est bien.
pour la Fédé, et c'est visiblement, ou c'était encore une de ses ambitions, depuis quelques années. Après, est-ce que ça peut changer, on n'a pas parlé depuis un moment, ces derniers mois. Est-ce que ça peut changer, si le Racing continue de grandir, etc. Après, vu ce qu'il en a fait, vu ce qu'il l'a amené, je pense qu'il sera suffisamment intelligent pour passer le flambeau à quelqu'un de confiance qui mettrait pas tout le club, enfin qui changerait pas du tout de tout le club qu'il a reconstruit, puis repartir.
Ouais, alors moi je suis pas le moyen de penser la même chose. Effectivement, on n'entendra jamais, vraiment jamais Marc Keller annoncer qu'il sera là avant 2 ans avant les élections, candidat à la succession. Mais effectivement, si c'est un destin qui semble taillé pour lui, destin fédéral. Donc voilà. Maintenant, effectivement, étant un dirigeant prévoyant, il va certainement il a certainement, si c'est le cas, déjà commencé à travailler en coulisses pour trouver une solution, un repreneur éventuel, voilà, pour souvent en même temps il l'a toujours dit, c'est pas non plus président éternel du Racing Club de Strasbourg, donc on peut effectivement imaginer que qu'à courte ou moyenne échéance quelque chose bouge au niveau de la direction, que mais bon, tous les suiveurs, tous les supporters du club espèrent tous que les erreurs du passé serviront de leçon, qu'on va pas vendre l'âme du club au diable, que ça sera pas un de ces nombreux clubs qui passera sous capital exotique et étranger sans visibilité, en perdant son âme. Donc attention, quoi, tout le monde est un peu vigilant, et en espérant que l'avenir soit plus heureux que n'a été le passé récent.
Moi, je pense que Marc Keller, en arrivant au Racing, il avait une crainte, c'est que son image soit écornée, que ça se passe pas bien, et voilà, lui, il habite, et moi, un jour, j'ai parlé rapidement avec lui, et j'ai compris ça, il habite en Alsace, il est alsacien, et lui, il va rester, donc il faut que ça fonctionne, et ça, c'est, pour moi, c'est quelque chose de très rassurant. Alors c'est peut-être un petit peu, voilà, c'est peut-être un peu basique, mais moi, j'y crois vraiment à ça, voilà.
Ah, mais ça a déjà fonctionné au-delà des espérances. Ça a fonctionné au-delà des espérances. Voilà. Alors, bon, voilà. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il peut faire de plus ou de mieux par rapport à ce qu'il a déjà fait. Et là, la question, c'est quand même un moment. Le nerf de la guerre, ça reste les capitaux, l'argent. Il va bien falloir se renforcer un petit peu. Là, le club est super dépendant de l'occupation du stade, des matchs. Comme l'autre jour, hein, contre Montpellier à 5000 spectateurs, c'est terrifiant pour les finances du club, quoi. Donc il faut tout est sur la corde, tout se joue au plus près. Donc ouais, voilà, il faut à un moment soit ouvrir le capital, soit vendre le club à des gens qui ont plus de moyens. Mais bon, voilà, pour l'instant, Marc Keller, c'est ce qu'on disait, suffisamment prévoyant, intelligent pour trouver une porte de sortie honorable le jour où il aura décidé de le faire.
Exact. Ben moi, je vous remercie vraiment pour votre participation. Je voudrais aussi remercier Hathor, JP Darky, Sébastien Ruspet, entre autres, m'avoir aidé à construire un petit peu le podcast. On peut évidemment retrouver Cyril sur Twitter. Donc, je donne ton un commercial.
C'est Cyril Olivet.
Ouais, Cyril Olivet. Donc c'est Cyrilolives. Toi, Sébastien, on peut te retrouver dans les DNA. Tu lis dans les DNA.
On peut te retrouver dans l'équipe aussi avec les articles sur.
Oui, évidemment, oui.
Et Seb sur les DNA.
Ouais, exactement. On peut te retrouver évidemment dans l'équipe. Mais tu as eu raison. Surtout, n'hésitez pas à donner votre avis sur le podcast, à rebondir dessus. Moi, commercial, Monsieur Foot de Foot, MRFOOTDEFOOT. Donc moi, on peut pas me lire dans les journaux, c'est une bonne chose pour vous tous. Merci au Cannes Football Club d'accueillir le podcast. Abonnez-vous aux podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous bien sûr sur la ligne pour ne louper aucun podcast, aucun épisode. Et enfin, pour conclure, comme de tradition, je salue et j'embrasse mon fils Adrien. Merci encore, messieurs, et puis voilà, que le vent porte le Racing le plus haut possible.
Merci à toi.
Salut. Au revoir, merci. Ciao.